Radio Kapi.
Oh, Kapi. Belinda Bosuma pour le journal.
À la une, clôture hier à Luanda en Angola du sommet quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le résultat concret obtenu de ce sommet, c'est l'adoption d'un document appelé « Cadre d'harmonisation et de coordination de toutes les initiatives ». C'est ce qu'indique le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il n'y a plus de laboratoire pour former les médecins à l'université de Kinshasa et faute de matériel, ce laboratoire a été transformé en auditoire. L'alerte est du docteur Raphaël Chirimwami, professeur au département de pathologie. Nord Kivu, hausse vertigineuse de certains produits manufacturés en provenance de Goma et difficulté d'évacuer les malades et les blessés. Situation consécutive à la fermeture de l'aérodrome de Kigoma à Walikale pour des travaux. Le président de la société civile territoriale plaide pour l'accélération des travaux afin de décanter la situation. Madame, Messieurs, bonjour. Le sommet quadripartite CEAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC s'est clôturé hier à Luanda, ce en présence des chefs d'État de la RDC, du Burundi, du Gabon et de l'Angola. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, l'objet de ce sommet était de trouver un cadre qui permettrait d'harmoniser et de mieux coordonner les diverses interventions sur le terrain des opérations et sur le terrain des initiatives pour arriver à résorber la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Christophe Lutundula ajoute que le résultat concret que ce sommet a réussi à obtenir est d'avoir adopté un document appelé « Cadre d'harmonisation et de coordination de toutes les initiatives ». Mais que contient ce document ? Christophe Lutundula explique au micro de Kéline Kouté, notre envoyé spécial à Luanda.
Il contient une matrice de règles situant le domaine d'harmonisation des responsables et évidemment tout bouclé par l'idée que nous devons tout mettre en œuvre pour réaliser les plans d'action conjoints des processus de Nairobi et de Luanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, le 23 novembre, par les ministres sommets d'ici à Luanda, amélioré par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en février à Addis Abeba et approuvé par la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, et les mêmes plans est soutenu unanimement par les Nations Unies.
Alors les échanges ont semblé être houleux dans cette salle. C'était quoi les points d'achoppement, Monsieur le Vépin?
Oui, nous avions deux points d'achoppement. Le premier, c'est de définir le rôle de l'Union africaine et celui de la RDC, qui est en fait le pays concerné au premier chef, la plaque tournante de tout le dispositif de coordination. Le deuxième problème, c'est la nature exacte de cette quadripartite qui réunit la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, cela fait 2 ans que la population de la région du Graben dans le territoire de Beni n'accède plus à ses champs. C'est à cause de l'insécurité qui sévit dans cette zone, une situation qui a des conséquences énormes sur la situation socio-économique de cette région à vocation agricole. Certains leaders locaux demandent l'accélération des opérations militaires conjointes qui se déroulent dans la région pour le rétablissement de la sécurité, ce qui permettrait aux populations d'avoir accès à leurs terres. Sadam Patanguli, leader communautaire, explique le calvaire des populations locales au micro de Marc Marofimbo.
Nous venons de passer au moins 2 ans sans fréquenter nos champs, ce qui fait que la population est dans une misère en tout cas inexplicable, surtout que nous sommes dans une zone à vocation agricole. La population vit à grande partie des activités agricoles, mais malheureusement, cette période ici de la culture des haricots est en train de passer sans que la population n'accède à ses champs dans le Graben, ce qui fait que dans la zone, en tout cas, il y a une famille famine un peu compliquée. Les enfants nombreux ne vont plus à l'école faute de moyens, surtout au niveau secondaire. D'autant plus que c'est le graben qui est même le poumon de l'économie de la zone ici. Les gens viennent de d'autres milieux pour venir cultiver dans les grabens. Et c'est la zone où les opérations conjointes FRDC et PDF sont en train de se dérouler. Et jusque là, la coordination des opérations n'a pas encore donné le go aux agriculteurs de pouvoir se rendre dans leurs champs.
Du côté de Maïndombe, près de 20 personnes ont été tuées le lundi par des miliciens communément appelés Mobondo qui se sont constitués en coupeurs de route près du village Moulounou, territoire de Kwamout. L'information donnée par le député national Guy Moussomo est confirmée par Alain Kobo, chef intérimaire du village Moulounou et au Congo central. Face à l'activisme des coupeurs de route sur la nationale numéro 1, le commissaire provincial ad intérim de la police du Congo central annonce l'installation dans toutes les zones rouges de cette route des équipes montées de la police pour combattre et traquer ces bandits. Je vous l'ai dit dans les titres, le laboratoire pour les travaux pratiques qui datent de l'époque coloniale n'existe plus à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. À la place, les professeurs se servent des photos, un moyen rudimentaire qui a un impact négatif. L'alerte est donnée par le docteur Raphaël Chirimwami, professeur au département de pathologie. Il ajoute que faute de matériel, le laboratoire a été transformé en auditoire. Mais comment en est-on arrivé là? Le docteur Raphaël Chirimwami explique au micro de Pascal Massirika.
À certains endroits, ces laboratoires n'existent plus, comme à la faculté de médecine. Le laboratoire qui servait pour les démonstrations avec manipulation de microscopes était une grande salle à l'époque. Nous avons suivi la disparition. Un laboratoire qui pouvait contenir 150 étudiants et chacun avec un microscope qui peut manipuler. Laboratoire qui sert non seulement pour des domaines comme le mien qui est la pathologie des tissus, la bactériologie pour les fondamentalistes qui enseignent ou qui étudient l'histologie. Et même pour ceux qui sont dans le domaine du végétal, les botanistes, ils utilisent les mêmes microscopes également. Ça n'existe plus, c'est devenu un auditoire. La salle qui devait servir de pratique pour l'anatomie, la salle de dissection, elle n'existait plus. Elle a été elle-même transformée en auditoire. N'ayant pas l'outil nécessaire, nous sommes souvent obligés de projeter des images aux étudiants.
Contacté, le ministre Mohindo Nzangi parle plutôt de vétusté de matériel qui, selon lui, nécessite la remise en état. Dans l'actualité aussi, ouvert hier à Kinshasa, le troisième forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC se clôture aujourd'hui mercredi par le président de la République. Lors de la première journée, il était question notamment de faire un état des lieux des engagements des deux forums précédents dans le but de renforcer le plan de la vaccination de routine dans le pays. En effet, dans la déclaration de Kinshasa de juillet 2019, lors du premier forum, la RDC s'est engagée notamment à atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, parle ici des attentes de ses assises dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
En effet, revisiter ce que nous avons accompli, éclairer ce qui demeure pour nous un défi et énumérer les leçons apprises que nous devons maintenir et retenir depuis que le premier forum a eu lieu en 2019. Ce sont là les actions attendues de nous au cours des présentes assises. C'est pour nous encore une fois une opportunité de maintenir ou de réorienter nos actions pour que la vaccination demeure au centre de nos priorités. Vous qui êtes venus des provinces, je souhaite que chacun se penche sur les détails qui feront booster l'immunité de nos concitoyens et particulièrement des femmes et des enfants qui attendent de nous un changement de paradigme dans ce domaine. La nécessité et l'urgence de maintenir constant nos engagements en faveur de la déclaration de Kinshasa nous pousse à vous souhaiter un excellent moment de réflexion et de prise d'action pour le bien-être de nos compatriotes.
Signalons que les gouverneurs des provinces, les autorités nationales et provinciales ainsi que plusieurs partenaires nationaux et internationaux prennent part à ces assises. Et puis, la deuxième édition de la conférence Risque Pays RDC se tient également ce mercredi à Kinshasa, organisée par le ministère des Finances. Cette conférence permettra de présenter le rapport Risque Pays RDC élaboré par l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation qui établit la cartographie des risques de la RDC en mettant en relief ses atouts, opportunités et ses axes d'amélioration. Il donne une meilleure visibilité sur l'environnement socio-économique du pays aux investisseurs et aux partenaires de développement tout en améliorant le climat des affaires. Que retenir du rapport Risque Pays RDC pour la première édition déroulée en 2022 et quels sont les enjeux de cette deuxième édition? Grâce Hamzati.
Une note de 5,1 sur 10, principalement tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques, a été octroyée à la RDC. À long terme, les perspectives de la RDC restent positives car Bloomfield prévoit une note moyenne de 5,5, principalement tiré par les améliorations sur le climat des affaires. Pour cette année, il sera question pour la RDC de confirmer ses perspectives positives à travers une amélioration de la notation. Quatre sujets clés seront débattus autour de la diversification économique du pays. Le premier va porter sur la performance, diversification économique et climat des affaires. Quant au sujet sur les sociétés du portefeuille, l'objectif est de savoir comment réinventer les modèles économiques et de gestion des entreprises publiques en RDC. Le troisième sujet est celui sur l'agriculture avec comme préoccupation comment soutenir le développement des chaînes de valeur agricoles en RDC. Enfin, au sujet sur les mines, les participants vont débattre sur comment accélérer la diversification verticale dans le secteur minier en RDC.
Autre nouvelle, affaire Franck Diongo, opposant politique. Ses avocats disent avoir enfin retrouvé ses traces à l'ex-Demiap ici à Kinshasa. Cela, 7 jours après son enlèvement. Ils ont été reçus hier à l'auditorat général des FARDC pour dénoncer l'enlèvement de leurs clients et ils affirment avoir eu l'autorisation de le rencontrer ce mercredi. Rappelons que le président du mouvement lumumbiste progressiste MLP a été enlevé le 20 juin par des hommes en uniforme armé au croisement des avenues des Huileries et Kabinda pendant qu'il revenait d'un deuil. On ignore jusqu'à présent les griefs mis officiellement à sa charge. Le président de la CENI, Denis Kadima, a ouvert hier à Kinshasa l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise, organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI et le secrétaire exécutif national adjoint ont pris part à cette cérémonie qui a connu la participation des délégués des organisations des personnes vivant avec handicap venues de toutes les provinces de la RDC. Nord Kivu, 3 semaines après la fermeture de l'aérodrome de Kigoma à Walikale, les conséquences s'y font sentir sur les plans socio-économiques, sanitaires et humanitaires. On observe une hausse vertigineuse de certains produits manufacturés en provenance de Goma. L'évacuation des malades et des blessés devient également difficile. Cet aérodrome long d'environ 1500 mètres est en pleine réhabilitation par les autorités provinciales. C'est en exécution des recommandations de l'autorité de l'aviation civile après une mission d'inspection pour une meilleure sécurisation de cette infrastructure. Fiston Misoma, président de la société civile territoriale, plaide pour l'accélération des travaux afin de décanter la situation, les infrastructures routières étant quasi inexistantes. Fiston Misoma est au micro de Denise Lukesso.
Comme le territoire de Walikale a été toujours enclavé, mais avec la présence de l'aérodrome, ça contribuait tant soit peu pour répondre aux besoins de la population sur le plan social. Il y a des organisations humanitaires qui travaillent en territoire de Walikale. Pour se déplacer de Goma vers Walikale, vers Kisangani, vers Bukavu, ce n'est pas chose facile. Et si aujourd'hui les choses sont bloquées, ça affecte directement sur le plan humanitaire. Il fallait acheminer des médicaments vers Walikale. Ça doit passer par où? Pour l'instant, c'est bloqué. Aujourd'hui, il y a des malades qu'il faudrait évacuer de Walikale vers Goma ou Bukavu qui s'engagne par rapport à la spécialité de traitement pour ces malades-là. C'est bloqué. Il arrive des fois qu'il faudrait que les autorités provinciales ou nationales arrivent à Walikale. Ils vont arriver avec quels moyens? Et surtout que nous sommes dans une période électorale. Sur le plan économique, ça impacte aussi négativement. Par rapport à nos recommandations, n'est rien d'autre que qu'il y ait l'accélération des travaux sur les projets de l'aérodrome.
De son côté, l'administrateur par intérim de Walikale appelle ses administrés à prendre leur mal en patience. Restons au Nord Kivu. L'administrateur du territoire de Lubero a inauguré le lundi le pont Kaando, situé à environ 150 km au sud de Butembo. Ce pont d'une vingtaine de mètres de longueur et d'une capacité de 15 tonnes relie les territoires de Lubero et de Walikale. Selon le président de la société civile du territoire de Lubero, le pont Kaando va faciliter l'évacuation des produits agricoles de la zone vers d'autres milieux.
Actualité internationale.
La faim a tué au moins 700 personnes ces dernières semaines dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie. C'est après que les États-Unis et les Nations Unies ont suspendu l'aide alimentaire, rapportent des responsables locaux et des chercheurs. En effet, l'ONU et les États-Unis ont suspendu pour la première fois l'aide alimentaire au Tigré en mars, après la découverte d'un système de vol de blé destiné aux personnes dans le besoin. Ils ont étendu cette suspension au reste de l'Éthiopie début juin, touchant ainsi 20 millions de personnes dans le besoin, soit environ un sixième de la population de l'Égypte. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.